des femmes écrivains. Une chronique de Jean Mauduit sur Canal Académie.
Bonjour Jean Mauduit.
Bonjour.
Et merci de tenir si fidèlement votre chronique sur les femmes écrivaines. Vous avez choisi de nous parler de plusieurs livres, je crois, aujourd'hui.
J'ai choisi de vous parler de deux livres, effectivement, que je trouve assez exceptionnels et pas loin d'être des chefs-d'œuvre.
Mais il y a un lien entre les deux livres ?
Aucun, sinon qu'ils sont écrits respectivement par deux écrivaines, mais ils racontent des histoires très différentes, dans un style très différent.
D'accord. Vous parlez de petits chefs-d'œuvre et je rebondis dessus parce que je me souviens que dans des émissions précédentes, vous disiez que vous vouliez pas abuser de ce mot de chef-d'œuvre. Et là, comment assumez-vous ce mot-là?
Vous trouvez que je m'alanguis un peu. Non, je persiste dans la déclaration de principe. Il ne faut pas abuser du mot. Mais je persiste aussi à l'attribuer à ces deux romans parce que chacun dans son genre, ils sont tout à fait exceptionnel, époustouflant. Alors le premier, si vous voulez bien qu'on l'aborde, a pour auteur une écrivaine sarde, qui s'appelle Mélina Agus, et il s'intitule « Mal de pierre », ce qui est la traduction de l'italien « Mali de Isperdas ». En fait, il s'agit de la gravelle, c'est d'une trivialité considérable, mais une trivialité, vous le verrez, qui se transforme ensuite, qui se transcende. C'est la traduction du mot gravel, c'est cette maladie, cette affection plutôt, qui amène aux coliques néphrétiques, dont chacun sait à quel point elles sont douloureuses. Mmh. C'est un livre qui est paru aux éditions Liana Levy.
Et auquel la presse a fait un bon accueil, je crois.
Oh, un accueil assez extraordinaire, parce que tous ces messieurs ou ces dames critiques, de toute obédience, se sont retrouvés d'accord du Télérama au Nouvel Obs, du Monde au Canard Enchaîné, même Elle, même L'Express, même Libération, même Le Figaro Littéraire, pour dire que c'était un événement, cette parution.
Alors, d'après vous, c'est justifié ?
Oui, il s'agit en fait de ce qu'on pourrait appeler un objet littéraire non identifié, un OLNI.
Ah, je crois que vous avez déjà utilisé ce livre,
oui,
cette
oui,
expression, je ne sais plus pour quel livre.
Je ne sais plus non plus, mais je l'utilise volontiers quand il s'agit de quelque chose d'insolite. Hein, c'est un aérolithe tombé de je ne sais quelle planète. Et justement, nous avons une production littéraire qui est souvent normée, qui est souvent convenu. Et là, les deux bouquins, mais celui-là en particulier, sont fascinants parce que c'est une surprise, une grande surprise.
Pourquoi ?
D'abord, à cause du personnage principal, qui est une femme, une jeune sarde qu'on nous décrit comme ayant des yeux immenses, une longue chevelure noire, qui a donc tous les attributs de la féminité, mais nous ne sommes pas dans la convention, au contraire. D'abord, nous ne connaîtrons jamais son nom. Car le narrateur, qui est une narratrice, la petite fille de ce personnage, ne l'appelle jamais que grand-mère. Et il y a une espèce de double médiation. C'est la petite fille qui parle de la grand-mère et une grand-mère qu'elle ne nomme pas. Donc ça introduit une ambiance de mystère.
Puis une grand-mère jeune, si je comprends bien.
Alors, quand elle la raconte, c'est une grand-mère jeune. C'est, je veux dire, le temps du récit est le temps de la jeunesse de l'héroïne. Mais le temps où la narratrice s'exécute, c'est un temps d'une grand-mère disparue. Elle est morte, entre-temps. Alors, cette héroïne, donc, je suis obligé d'appeler héroïne, sans autre, habite à Cagliari, qui est une espèce de ville verticale, sous le soleil de Sardaigne, avec des maisons qui donnent l'impression d'être les unes sur les autres. Et cette héroïne n'est pas commune. Elle est belle, elle est un peu braque, on pourrait même dire qu'elle est déjantée. Elle a d'ailleurs fait un séjour en hôpital psychiatrique. Et elle a eu des prétendants qui l'ont tous abandonnée au moment de conclure parce qu'elle leur écrivait des lettres d'amour, des lettres enflammées, et qu'ils avaient la trouille, pour parler vulgairement.
Ah bon, ça fait peur, des lettres d'amour.
Ça fait peur dans ce roman, qui n'est pas le mien. ça fait peur parce que j'imagine que les mariages tels qu'ils se concluaient dans cette période qui doit se situer juste après la guerre, après la dernière guerre, les mariages étaient dans la culture sarde étaient encore entourés d'un certain rituel et que ces lettres d'amour hors d'usage faisait peur.
Parce surtout venant d'une femme, peut-être.
Surtout venant d'une femme, sûrement même, oui. Le temps, à part Madame Sand et quelques autres, il n'était pas très bien vu que les femmes écrivent, les jeunes filles surtout, écrivent des lettres d'amour enflammées.
Donc là, il y a une mise en abîme de femmes écrivant.
Oui, tout à fait. Tout à fait, je suis d'accord. Et puis, c'est un poète. Tout nous le dit. Et les poètes aussi font peur. Bon, elle va finir par conséquent par épouser la pauvre, un homme qu'elle n'aime pas, qu'elle n'aimera jamais, à qui elle commence par refuser le moindre contact. Ils dorment côte à côte dans le lit conjugal, qu'on peut imaginer grand, pompeux, et ils ne se touchent jamais. Jusqu'au jour où, sachant depuis le début qu'il fréquente depuis longtemps les maisons closes, elle lui propose ingénument de lui rendre les mêmes services que lui rendent les prostituées. Oui, parce que selon elle, ce sera tout bénéfice, l'argent qu'il dépensait. Ils pourront le mettre de côté pour acheter une maison. Alors, il y consent, vous voyez qu'on est en pleine surprise, il y consent et il accepte de lui enseigner, disons, les positions, les postures érotiques. Et ça se passe très bien, si ce n'est qu'ils n'éprouvent jamais l'un pour l'autre le moindre sentiment. Une fois assouvi le plaisir, ils ne s'aiment pas. Définitivement, ils ne s'aiment pas, malgré quelques frémissements timides et aussitôt interrompus.
C'est rigolo comme histoire, ça.
Oui, oui. Et l'auteur a tellement de talent que ça, c'est au moins vraisemblable. Alors, en 1950, comme elle souffre beaucoup des coliques néphrétiques, elle va en cure sur le continent, c'est toute une aventure. Et là, elle rencontre un curiste comme elle, qui est un rescapé de la guerre de 40-45, qui a perdu une jambe. Elle l'appelle le rescapé, parce que lui non plus ne sera pas nommé. Elle s'éprend violemment de lui. C'est une fille à ne pas faire les choses à moitié. Et elle noue avec lui un amour violent, un amour thermal, comme les cures du même nom, qui sera sans lendemain. Elle ne reverra jamais le rescapé. Bien qu'elle essaie de le retrouver par tous les moyens, elle n'y arrive pas. Mais elle a un doute, et le lecteur en a un aussi. Comme elle a accouché enfin, après beaucoup de fausses couches, d'un fils 9 mois après le séjour en cure thermale, on peut imaginer, et l'auteur nous laisse imaginer, que c'est le fils du rescapé. Un fils brillant, d'ailleurs, qui va devenir un extraordinaire pianiste. Et d'ailleurs, la maman va faire des ménages en crèchette pour lui acheter son premier piano. Il deviendra un concertiste international, sans qu'elle puisse jamais assister à ses concerts, parce que lorsqu'elle entend le son de son piano, elle a essayé une fois, elle est tellement bouleversée d'émotion qu'elle ne peut pas le supporter. Voilà le roman.
Un roman qui vous a bouleversé, on dirait.
Ah oui, qui m'a beaucoup touché. C'est une œuvre étonnante, parce que sous son apparente simplicité, c'est une œuvre d'une extrême finesse et surtout d'une grande liberté. Que c'est pas une liberté idéologique, c'est beaucoup mieux que ça. C'est la liberté tout court, la liberté de l'enfant, si vous voulez. Le style est complètement nu, aucun apprêt, et pourtant, il s'en échappe une grâce indéfinissable. C'est un ouvrage qui ressemble au paysage de Sardaigne, âpre comme eux, mais qui est transcendé, qui transcende en tout cas les bonheurs de la vie, les malheurs de la vie. En réalité, moi, je dirais que c'est une métaphore de la transcendance. Et où la trivialité qui existe, elle est dans le titre même, devient une espèce de beauté insolite.
Le second roman que vous avez choisi, Jean Mauduit, et oui. A aussi cette beauté. Et ressemble un peu à un conte, hein, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le second roman n'est pas du tout puisé aux mêmes sources. On dirait même que c'est l'inverse.
Oui.
Puisque Milena Angus parle de la trivialité la plus grave, je dirais. Hein, pas la peine d'y revenir. Pour arriver à la poétique. Alors que là, on est dans le poétique tout le temps. Et c'est le poétique qui appelle la réalité. C'est la démarche inverse.
Donc, alors, citons peut-être le titre, il s'agit du Canapé Rouge.
Le Canapé Rouge. De Michel Lèbre, aux éditions
Sabine Vespizère.
Oui, c'est ça. Alors, il s'agit de Sabine Vespizère, oui, éditeur. Il s'agit d'une jeune femme, ou un peu moins jeune, qui s'appelle Anne, cette fois. Elle s'est nommée une fois. Et c'est écrit à la première personne. qui est lancée à la recherche de l'homme qu'elle aime. Bon, la trame est classique, pour ne pas dire banale. C'est un certain Gilles, mais Gilles s'écrit G-Y-L, attention, qui est un déçu du communisme, un orphelin du communisme, qui, pour essayer de sauver le peu d'idéal qui lui reste, après la déconvenue de l'URSS, a choisi d'aller vivre très loin, sur les rives du lac Baïkal, à la limite de la Mongolie extérieure. Alors, pour le rejoindre, elle prend place à bord d'un express, pas d'un transsibérien pour cause, mais d'un express qui prend son temps et qui va la conduire là-bas, très loin. Bon, voilà, voilà la trame. Et c'est pas du tout un récit de voyage. C'est un interminable trajet qui occupe pas tellement de pages dans le roman, mais l'art de l'auteur est tellement fort qu'on a l'impression de vivre cette durée. Les steppes défilent, les villages arrivent en tournoyant, comme dans les trains, vous le savez, du fond de l'horizon. On voit passer leurs datchas entourées de barrières. On voit des villes qui fulminent dans la nuit, qui s'évanouissent aussi. Et puis ce grand ciel de Russie que je connais un peu, toujours fuyant, jamais le même, toujours pareil. Vraiment un sentiment extraordinaire de la durée. Vous verrez que le temps est en fait le ressort de ce roman. Alors, elle va revivre son existence, ses amours, son idéal, parce qu'on sait bien qu'elle était communiste elle aussi, son idéal déçu, son idéologie fanée. Et elle évoqua aussi l'étrange amitié qu'elle entretient avec une très vieille dame, qui est une ancienne modiste, et qui passe sa vie, ayant perdu un peu la tête, au fond d'un couloir, assise sur un canapé rouge, d'où le titre du roman. Alors, elle a noué une grande complicité avec cette vieille dame, et elle évoque ça, enfin, l'auteur évoque ça avec un bonheur de style, un bonheur d'écriture extraordinaire. On a l'impression que le temps une grande rêverie, si vous voulez, où le temps se dilue, le monde se dilue, c'est l'empire du flou, c'est l'empire de la mémoire, finalement, c'est l'empire des voyages.
Mais comment est-ce que l'auteur, Michel Lèbre, fait pour tenir son lecteur dans ces conditions?
Ben, le charme indéfinissable, il n'y a pas d'action, c'est vrai, il y a l'évocation d'amour, d'événements, il y a peu d'action. Bon, elle va retrouver, elle ne le retrouvera pas finalement, parce qu'il est en vacances, loin de là, et qu'elle n'a pas envie finalement de le voir. Elle a rencontré au cours du voyage un homme autour duquel elle a rêvé. On est toujours dans le domaine onirique, et c'est très prenant, à cause du style, et à cause aussi du mélange extraordinaire. Alors, entre, je dirais, avant-hier, hier et aujourd'hui. Et il y a quelque chose que j'ai rarement vu, d'ailleurs, j'ai pas souvenir d'avoir jamais vu à ce point, un usage maîtrisé d'une façon étonnante du plus que parfait. Comme le temps du passé, celui qui refoule tout au fond de la mémoire des événements anciens, et puis ces silhouettes qui défilent, ce qui apparaissent et disparaissent, celle du compagnon de voyage dont je parlais, Igor, pour qui elle conçoit une espèce d'amour complètement onirique, qui n'aboutira à rien. C'est envoûtant. C'est envoûtant, c'est une maîtrise de la langue peu commune, c'est une magnifique variation sur le temps. Hein, le temps perdu que Proust exaltait, et qui, comme chez Proust, ici, devient la substance même de l'émotion.
Est-ce que vous voudriez bien prendre un tout petit instant pour nous lire un extrait de ce livre ?
Je buvais un thé sombre et amer, en tentant d'apercevoir un peu du paysage que les rideaux tirés dissimulaient. Toujours la même chose, et pourtant j'avais en permanence l'impression qu'il était différent. Inattendu presque. Immensité sans bornes, où s'effaçaient mes propres limites, où je perdais ce sentiment d'éloignement qui donne un peu de vertige, d'appréhension. Je m'oubliais, ou plus exactement, j'étais happé, étourdi, enivré par cette sorte de solitude qu'engendre le voyage, cet oubli momentané des habitudes et des repères. L'été décliné, en fin de journée, une lumière intense tombait du ciel, rendait les troncs des bouleaux presque phosphorescents, les couleurs saturées. Le soir survenait d'un seul coup, dense, rempli de nostalgie et d'une agitation singulière, empreinte de cette angoisse indicible, presque animale, avant l'obscurité, un océan d'obscurité.
Merci,
chapeau,
Jean-Baptiste.
Chapeau.
Merci, Michel Lèbre. Est-ce que, par contraste, puisque ces deux romans sont faits de contraste, vous pourriez bien nous lire un tout petit extrait?
Ah oui, je trouve que Ça, très, très astucieux.
Du roman Mal de Pierre.
Alors, ces jours-là, les jours où, justement, elle, l'héroïne se livrait aux prestations érotiques dont elle était convenue avec son mari, que son mari lui avait enseigné, ces jours-là, elle était heureuse, même si elle n'avait pas l'amour, heureuse des choses du monde, même si grand-père ne la touchait jamais, à part quand elle effectuait les prestations de maison close, même s'il continuait à dormir chacun de son côté du lit en veillant à ne pas s'effleurer, et se disait « Passez une bonne nuit. Bonne nuit, vous aussi. » Et le meilleur moment, c'était quand grand-père allumait sa pipe au lit, après les prestations. À son air, on comprenait qu'il était bien. Grand-mère le regardait de son côté du lit, et si elle lui souriait, il lui disait « Ça te fait rire ?» Mais jamais il n'ajoutait autre chose, ni ne l'attirait vers lui. Il la gardait à distance. Et grand-mère s'étonnait toujours de la bizarrerie de l'amour qui, s'il ne veut pas venir, ne vient pas au lit, ni même à force de gentillesse et d'attention. Et il était étrange qu'on n'eût justement aucun moyen de le provoquer, alors que c'était la chose la plus importante.
Merci beaucoup, Jean Mauduit. Quelle sera votre prochaine chronique ? Dites-nous.
Alors, ma prochaine chronique sera un ouvrage chinois. Le nom de l'auteur m'échappe parce qu'il est un peu compliqué. C'est un extraordinaire témoignage d'une jeune pianiste internationale qui a passé 10 ans en camp de rééducation au temps de la Révolution culturelle.
Ce n'est plus une jeune pianiste, je crois, à l'heure d'aujourd'hui.
Elle doit avoir 45 ans. C'est jeune encore, hein.
Oui, une merveilleuse pianiste. Oui, un témoignage très touchant, je crois.
Oui, très touchant.
Merci, Jean-Mauduit. Je rappelle que toutes vos chroniques sont disponibles sur notre site www.canalacademy.com. Vous y trouverez une chronique sur les livres de Madame de Staël, une chronique sur Tokyo de Moïder et une chronique sur le dernier livre d'Amélie Mothombe, Ni d'Ève, ni d'Adam.
Tout à fait. Et également une chronique sur Madame de Sévigné.
Et Valentine Gobie également.
Madame de Lafayette, pardon, je dis une
Madame
bêtise.
De Lafayette.
Oui, Madame de Lafayette, oui. La princesse de Clèves, oui.
Tout à fait. Et le dernier livre de Valentine Gobie, L'échappée.
Tout à fait.
Je crois que...
Ouais, tout à fait, ça commence à faire une belle collection, oui.
Oui, bravo à vous. À bientôt, enfin.
À bientôt.